10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, l'islam au présent tout l'été sur Beurre FM. Soyez les bienvenus. Une heure pour parler d'islam le samedi avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe. Je sais pas si on m'entend là. On m'entend? Ouais, c'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amnu wala. Ahlan.
C'est tout?
Bah écoute, non,
je voulais savoir ce que vous vouliez nous dire.
Je te laisse.
J'aime bien. Quand l'imam dit ça, c'est qu'il a pris le contrôle et que finalement il dit non, mais c'est toi qui anime. Alors, Imam Abdelali, c'est notre deuxième émission consacrée à tous les rites funéraires. Il y a eu énormément de questions suite à la première émission que nous avons faite. Donc, nous avons demandé au cher Youssef Hachmaoui de revenir. Bonjour et bienvenue, cher.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes imam et fondateur de Janaza France et c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui concernent le décès. Alors qu'est-ce qu'on doit faire quand on est face à un décès qui se passe soit à domicile, soit à l'hôpital, soit dans un EHPAD? Quelle est la première chose à faire?
Première chose à faire, on doit juste distinguer deux choses. Alors déjà, si le décès se passe à l'hôpital, j'ai envie de dire c'est une bonne chose. Parce que il y a une équipe médicale sur place, le médecin vient, est contacté par la famille, par le service, il vient, il constate le décès, il rédige son certificat de décès, le défunt est transféré et placé en chambre mortuaire, donc dans les locaux techniques, réfrigérés de l'hôpital, et pendant les 3 jours, ce qui est largement suffisant pour organiser des obsèques en France ou un rapatriement à l'étranger, on a le temps de faire tout ce qu'on appelle tout le processus de rapatriement ou d'inhumation en France. Cela veut dire les démarches administratives, la toilette rituelle, la livraison du cercueil, l'équipe technique qui vient et pour la toilette et pour transférer le défunt à l'aéroport, éventuellement précédant une mosquée pour la prière rituelle, transfert à l'aéroport ou éventuellement, bien sûr, inhumation en France dans le cimetière dédié. Jusqu'à là, tout va bien, tout se passe bien. À 99% dans les hôpitaux, ça se passe très bien, c'est très simple à gérer. Tout va bien, qu'on soit à Paris, en région parisienne, ça se passe très bien, c'est très simple. Ça se complique lorsqu'on est dans des cliniques ou dans un EHPAD.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça change la clinique par rapport à l'hôpital?
Parce que déjà, les cliniques privées notamment, 90% ne sont pas pourvues de locaux techniques.
Il n'y a pas de morgue.
Oui, il n'y a pas de morgue, effectivement. Il n'y a pas de chambre mortuaire. Mmh. On distingue chambre mortuaire et chambre funéraire. Chambre mortuaire, c'est tout ce qui est les établissements de soins, donc les hôpitaux, les cliniques. Mmh. Et bien sûr, les chambres funéraires, c'est ce qu'on appelle les funérariums. C'est privé, c'est cher. Et là, c'est vraiment pour des décès qui se font hors hôpital. Donc domicile, voie publique, etc. Accident, incident, etc. Donc maintenant, dans les cliniques, le problème que nous avons, c'est qu'ils ne sont pas pourvus, ne sont pas équipés de locaux techniques réfrigérés. Donc ça complique. Des fois, au mieux certains, parce qu'en fait, vous devez avoir un certain nombre de décès. La loi française exige que vous devez dépasser un certain nombre de décès annuels afin d'avoir. C'est là. Une fois que vous allez dépasser un certain nombre de décès à l'année, là, ça vous oblige à avoir des locaux techniques. Si vous ne dépassez pas ce quota,
il n'y a pas d'obligation.
Il n'y a pas d'obligation. Donc maintenant, et même certains sont assez intelligents pour voir, lorsqu'une personne, ça ne va pas très bien à l'EHPAD ou à la clinique, éventuellement le transférer vers un service public. Je dirais pas pour s'en débarrasser, c'est pas le bon mot. Mais voilà, pour éventuellement, s'il y a quoi que ce soit, on n'est pas comptabilisé. Donc les cliniques ne sont pas pourvues, ne sont pas équipées. Les EHPAD ne sont pas équipés aussi. Au mieux, ils ont une petite table réfrigérée. Ce qu'on appelle une table réfrigérée, c'est un lit réfrigérant avec un système frigorifique en dessous. On peut installer le défunt dessus. Ça va être, on va dire, optimal pour 48 heures maximum. Donc, ce qui est suffisant pour organiser des obsèques, entre guillemets, dans l'islam, parce que nous avons le devoir de se hâter, de faire les choses rapidement et de ne pas traîner. Donc généralement, les obsèques en France, ça dure entre 24 et 48 heures. De toute façon, en France, à moins de 24 ans, nous n'avons pas le droit d'inhumer. Et donc, pour un rapatriement et un enterrement en France, il faut compter au moins 24 à 48 heures, lorsqu'on fait vite. Alors maintenant, ce qui va se compliquer dans les cliniques, dans les établissements de soins, c'est que là, on va être confronté à un problème. C'est que généralement, les cliniques et les EHPAD veulent récupérer rapidement, veulent libérer la chambre pour la récupérer, pour la remettre, entre guillemets, en vente, en location. Et là, on va être confronté à un souci, c'est qu'ils vont...
Même si, si vous continuez à payer jusqu'à...
Vous continuez à payer, oui, effectivement. Mm. Là, on est souvent confronté à un problème, c'est que les familles nous contactent en nous disant que ce qu'on fait. La règle est, c'est même pas la règle, c'est la loi française qui est faite telle que le défunt a le droit de rester dans l'établissement de soins, charge à l'établissement de soins de posséder des locaux techniques ou un minimum, quand je dis un minimum, ça veut dire c'est à eux de se garantir que le défunt puisse être conservé par un minimum de 3 jours dans des conditions optimales ou via une ou via on va dire de la glace carbonique au minimum et sinon via ce qu'on appelle des tables réfrigérées. Maintenant, généralement, ce qui se passe malheureusement, c'est que les établissements de soins vont faire signer, vont dire à la famille, écoutez, il sera mieux en funérarium, le laisser ici, c'est pas évident, il va chauffer, on n'est pas équipé, il faudrait le transférer. La famille ne va pas dire non. Et ils vont faire signer à la famille des documents de transfert, des documents d'admission ailleurs. Et là, bah, la loi française dit, qui signe paye. Sachant que la loi dit les choses clairement, c'est au demandeur de faire l'admission et c'est le demandeur qui paye. Si la famille n'est pas demandeur ou demandeuse, n'a pas l'obligation de signer, n'a pas l'obligation de le faire parce que la loi vous dit, c'est à vous, en tant qu'établissement de soins, de vous garantir que le défunt puisse rester dans des conditions optimales. Parce que si vous le transférez, ça a un coût. Ça a un coût de séjour dans un funérarium et ça a un coût de transfert. Notamment si c'est la nuit, ça va être majoré. Un coût médian en région Île-de-France pour un prix pas cher, ce qu'on facture nous généralement, c'est 300 euros. Un transfert de la maison ou d'un hôpital ou d'un EHPAD ou d'une clinique vers une maison funéraire, c'est au moins 300 euros parce que vous comptez l'équipe, donc l'équipe des porteurs, et vous comptez aussi au minimum 2 personnes et vous comptez aussi un véhicule réfrigéré. Donc c'est à peu près une demi-journée. Maintenant, il y en a qui abusent un peu plus dans les prix, ils vont facturer ça 500, 600, 700. On a vu même des abus qui vont au-delà de 1000 euros, notamment les week-ends, les jours fériés et la nuit. C'est très, très, très abusif. C'est du vol. Un coup dans un funérarium, région Île-de-France, en périphérie parisienne, on est en moyenne entre 600 et 700 euros.
Donc on peut jouer la concurrence, tout simplement.
Mais par jour, par jour.
C'est un forfait. Là, si on parle... Oui, si on parle du transfert, donc du véhicule et de l'équipe qui vont transférer un défunt, on est sur un prix correct de 300 euros. On est sur un prix encore correct jusqu'à 400 euros. On commence à avoir un prix qui commence à être élevé à partir de 500 et plus, ça commence à être cher. Mais là, on parle que du transfert avec un véhicule réfrigéré. On ne parle pas du coût de séjour dans une chambre funéraire. Le coût de séjour dans un funérarium ou une chambre funéraire, c'est la même chose, hein. C'est approximativement 600-650 euros en région Île-de-France. C'est 950 euros, 934 très précisément, dans les 2 funérariums de Paris intramuros. Donc c'est extrêmement cher. Cela veut dire, là, on n'a pas encore organisé des obsèques, ni un rapatriement, ni un enterrement. On est déjà entre un transfert d'un EHPAD, d'une maison ou d'une clinique vers un funérarium, on est déjà à 1500 euros. C'est extrêmement cher. Sachant que, ici, vous, en tant que famille, vous n'avez rien, c'est ce qu'on dit aux familles, vous ne signez rien. Tu n'es pas demandeur, tu ne signes rien. Parce que si tu signes, c'est toi qui payes. C'est comme ça. C'est la loi. Et c'est écrit, bien sûr, dans les règlements intérieurs. Donc, tu n'as rien demandé. Le défunt peut rester dans sa chambre et peut rester dans sa chambre. Maintenant, si le directeur de l'établissement souhaite le transférer,
c'est 3 jours.
On est gratuit. D'accord. C'est la loi. 3 jours gratuits.
C'est 3 jours.
Que ce soit l'hôpital, l'EHPAD, clinique, charge à eux, même s'ils n'ont pas d'équipement technique, de garantir que le défunt restera dans sa chambre dans des conditions optimales. Si maintenant c'est le choix de la famille, c'est le souhait de la famille de le transférer, là ça va être à leurs frais, mais ce ne sera pas fait à leur insu, c'est eux qui sont demandeurs, il n'y a pas de souci. Maintenant, un décès à domicile, c'est hyper important. Déjà, on ne sait pas, 90% aujourd'hui, de 99% aujourd'hui de la population française ne sait pas que s'il y a un décès à domicile, on peut conserver son défunt à domicile. Il peut rester à domicile pendant 6 jours, c'est la loi française, 6 jours maximum, même si on sait que nous, généralement, en 48 heures, la janaza est déjà faite, hein, le rapatriement a déjà eu lieu, l'enterrement a déjà eu lieu en moins de 48 heures. Mais sinon, le défunt a le droit de rester chez lui. C'est ce que nous disons en famille. Gardez votre défunt à la maison. Alors attention, la réponse est « Ah non, mais c'est impossible. Pourquoi ce serait impossible ? Mais il va chauffer le... » On n'est pas fou. Lorsqu'on vous dit de laisser à domicile, c'est qu'on va vous garantir qu'il sera conditionné, qu'il sera conservé dans des conditions optimales. Comment ? Il reste à domicile, on vous livre, vous nous contactez, on vous livre un lit réfrigéré, donc c'est un lit qui fait 2 mètres, hein, 2 mètres sur 70 de largeur, qui est dépliant, avec un gros système, donc un frigo, hein, avec un système réfrigéré en dessous, on le branche, on le met à 5 degrés, on plie un drap en 4, on pose le défunt par-dessus, le défunt restera au frais pendant 2-3 jours, aucun souci, ça vous coûte rien.
Mais même s'il y a des chaleurs telles qu'on en connaît l'été,
s'il a fait comme il y a quelques jours,
il y a quelques semaines,
40 degrés, c'est vrai que ça va être difficile.
Vous voyez ce que je veux dire,
sachant que 90% des EHPAD et des cliniques privées ont uniquement des lits réfrigérés. Ils n'ont pas de locaux techniques, ils n'ont pas ce qu'on appelle des cases réfrigérées où nous avons vraiment un système de, je dirais pas chambre froide, ce n'est pas respectable pour les familles et pour les défunts, mais on a ce qu'on appelle des cases réfrigérées, des cases individuelles, où le défunt est placé à l'intérieur et vraiment au frais.
Ouais.
Donc le défunt peut rester à la maison, il n'y a aucun souci. Maintenant, encore une fois, si c'est le souhait de la famille de le transférer vers une chambre funéraire pour X raisons, ce n'est pas un souci. Mais avant de le transférer, il faut savoir que ça a un coût énorme. Entre le transfert et la chambre funéraire, on est au minimum sur un coût de 1 000 euros.
Bien. On va revenir dans un instant, parce qu'on a eu beaucoup de questions, chez Youssef, sur l'achat des concessions en France. On verra ça dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, il y a beaucoup de questions concernant la mort, donc nous avons demandé au cher Youssef Hachmamoui de revenir. Vous êtes imam et fondateur de Janaza France, et puis l'imam Abdelali Mamoun est avec nous. Alors on parlait des concessions. Est-ce qu'une concession en France est obligatoire ou pas ?
Elle est obligatoire, oui, parce que j'ai envie de vous dire, il y en a qui sont gratuites. Mais gratuites, c'est uniquement pour les indigents, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas les moyens, n'ont pas d'amis, n'ont pas de famille, n'ont pas de ressources. Le maire se doit, dans sa commune, si quelqu'un décède, il n'y a personne pour pouvoir à ses funérailles, donc amis, proches, collègues...
Mais c'est à qui qu'on achète justement la concession ?
À la mairie.
C'est la mairie.
Une mairie qui vous vend la concession.
D'accord.
C'est une location.
Et est-ce qu'il est possible de payer pour les personnes qui, bon, certes, sont pas indigents, mais peuvent aussi avoir des revenus limités, n'ont pas des capitaux importants pour pouvoir verser d'un seul coup C'est combien pour 50 ans, par exemple ?
Tout dépend. Alors, 50 ans en Ile-de-France. En Ile-de-France, 50 ans, ça peut aller du moins cher, qui peut être aux alentours de 700 euros pour les communes les moins chères, jusqu'à 3500 euros
d'accord.
pour des communes.
Alors celui qui n'a pas ces 3500 euros, est-ce qu'il peut négocier avec la mairie un paiement échelonné ?
Non, ça ce n'est pas possible, parce que l'argent va au trésor public, ce n'est pas possible. Néanmoins, des fois, l'édile, le maire, peut offrir une concession, pas offrir, mais peut dire, par exemple, j'ai un indigent, j'ai quelqu'un qui n'a aucune ressource, ou bien qui est décédé dans des conditions atroces, ou bien qui, des fois, pendant une même année, on a eu le décès de la mère et du père, ou du père et de la mère, dans un délai de 6 mois, il n'y a uniquement des enfants, le maire peut dire, pour cette famille-là, je ne facture pas. C'est son droit aussi.
Est-ce qu'on a le droit, justement, d'avoir cette concession où on va creuser profond pour pouvoir poser deux corps séparé par 50 cm.
En Ile-de-France, dans une majorité de... À Paris même, hein, Paris-Ile-de-France, dans une majorité de cimetières, on peut aller jusqu'à 2, 3, 4 places. Il y a par exemple, il y a des cimetières Bobigny, Blanc-Ménil, etc., où on peut aller jusqu'à 3, 4 places. Il y a des mairies qui ne peuvent pas. Ben, surtout lorsque vous êtes proche de la Seine, hein, comme Ivry et autres, vous êtes limité à une place, voire deux places maximum. Et il y a des mairies où vous pouvez aller jusqu'à 4 places. Il y a des mairies, par contre, qui vous exigent, et ça, ce n'est pas normal, sans les citer, il y en a dans 95, il y en a dans 92, qui vont vous exiger de creuser un 3 places. Ou bien vont vous exiger d'acheter une concession de 50 ans, et qui est extrêmement chère. D'ailleurs, c'est dans les villes qui sont chères dans 92. C'est illégal.
C'est ce qu'on appelle la concession perpétuelle, ça, 50 ans?
Non. Perpétuelle, c'est perpétuel.
Ça n'existe pas, ça.
Ça existe encore, mais ça coûte extrêmement cher. Ça existe, hein. Mais c'est Père-Lachaise, ça existe, mais
ça sert à rien. Ça sert à rien.
Oui. Maintenant, une 50 ans est largement suffisante. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, et ça personne ne sait aussi, il faut le savoir, que lorsqu'on parle de 10 ans, les gens des fois sont effrayés en se disant, mais 10 ans, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, ils vont l'enlever. Non. 10 ans. Alors la loi en France, c'est 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Tout est renouvelable. Cela veut dire avant anniversaire, avant échéance, 2 ans avant, vous recevez un titre, vous recevez un document à la maison. Donc le titre, vous allez le recevoir une fois que vous avez acheté. Et 2 ans avant échéance, vous recevez des courriers de la mairie ou du syndicat. Parce que des fois, vous avez aussi en France, notamment en région parisienne, même en province, des cimetières intercommunaux. Donc des fois, c'est 5, 6, 7 villes qui se rassemblent, ben, comme à Valenton.
C'est des syndics, tu veux dire, des syndics.
Oui, en fait, c'est des syndics qui vont gérer. C'est un syndicat.
Pas des syndicats.
Non, c'est un syndicat qui va gérer. En fait, il y a une présidente avec un syndicat.
Pensais que syndicat, il disait que dans le cadre de défense des travailleurs.
Non, c'est une délégation de services publics qu'on va donner à un syndicat privé, bah, qui va gérer, par exemple, le crématorium de Père-Lachaise, c'est un syndicat. Roissy-en-Brie, Valenton, Bobigny-la-Courneuve, etc. Mm-hmm. Ce sont, ben, Puise-de-Pontoise. Voilà, ce sont des, ben, Joncherolles à Villetaneuse. Ça, ce sont des groupements de communes, par exemple, qui sont des fois 5, 6, 7 communes, qui vont se cotiser pour un endroit précis. Et cet endroit-là, ça va être pour les gens qui habitent ou qui décèdent dans ces 6, 7 communes. Donc, ce qu'on appelle un cimetière intercommunal. Donc là, c'est un syndicat qui va gérer. Maintenant, lorsque c'est des cimetières communaux dans une seule commune, là, c'est le service d'État civil qui gère directement et qui vend les concessions.
Alors, vous avez parlé de crématorium. Imam Abdelali, pour les musulmans, le crématorium, c'est
strictement interdit, voilà. Bien sûr. La yahrikhu bin-nar illa rabbun nar, dit le prophète, alayhi sallam. On ne peut brûler un corps que seulement le Seigneur, les dieux de ce corps. Et donc, il est strictement interdit que de brûler seulement dans un seul cas, si c'est pour préserver les vivants. C'est-à-dire dans le cas où est-ce qu'il y a une épidémie de peste, par exemple, où est-ce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas d'autres moyens sanitaires pour éviter
la propagation
du virus, etc. Qu'en utilisant le moyen de brûler les corps, eh bien là, effectivement, la nécessité fait loi. وَالضَّرُورَاتْ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتْ. Donc, effectivement. Donc là, c'est un cas exceptionnel. Mais sinon, dans un cas classique, normal, tout va bien, on ne doit pas brûler les corps. Un musulman doit être enterré dans un cimetière, voire un carré musulman, mais pas autrement.
Est-ce qu'il est préférable d'enterrer un défunt avec ou sans cercueil?
Alors, en France...
C'est obligatoire?
En France, c'est obligatoire, oui. Le cercueil est obligatoire, même les poignées sont obligatoires, le capiton, non. Ce qu'il y a à l'intérieur, donc
il y a des cercueils en carton aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, pour ceux qui souhaitent être crématisés.
Ah oui, d'accord. Donc pas pour ceux qui sont enterrés.
Sachant qu'une majorité de crématoriums n'autorise pas le carton, d'accord. Parce que le carton peut prendre feu avant même que le four soit fermé.
D'accord.
Donc il y en a beaucoup. Il y en a pour des raisons écologiques et hautes et de coût aussi. De toute façon, même le carton n'est pas donné, hein. Même le cimetière en carton est cher aujourd'hui.
Mais c'est parce que c'était le moins cher, c'est pour ça que je dis.
Oui, pardon, j'ai dit le cimetière, non, le cercueil en carton est très cher.
Ouais.
Néanmoins, voilà, il est commercialisé dans le sud de la France. Pour des raisons écologiques, certains l'utilisent, mais il y a beaucoup de crématoriums qui le refusent.
En tout cas, en islam, il n'y a ni carton, ni tout ça, il n'y a pas de crématorium, on ne brûle pas les êtres humains, on les enterre. Et si ça a lieu, parce qu'il y a aussi une question qui peut se poser, c'est si ça a lieu en mer et que le bateau est très loin de la côte. Eh bien, si le bateau a des moyens de réfrigérer, de garder dans de bonnes conditions le corps jusqu'à qu'il soit amené à bon port pour être enterré dans un cimetière musulman, à ce moment-là, il est enterré dans un cimetière musulman, après avoir été conservé dans de bonnes conditions au frais. Si c'est pas possible, parce que je suis dans une petite embarcation, je suis très très loin, je suis même perdu en mer, au milieu du Pacifique, bref, en tout cas, et puis que ce corps-là va pourrir, et va peut-être, il va émaner des odeurs, je le mets dans un linceul, je l'enveloppe dans un drap, et je l'envoie par-dessus bord. Bien entendu, il est possible d'inhumer un être humain en le faisant tout simplement passer par-dessus bord, si on est très très loin. Par exemple, les bateaux de guerre, vous savez, les bateaux de guerre qui ne doivent, peuvent pas rentrer avant des mois, souvent, eh bien, le corps est enveloppé dans un drap. Et ensuite, il y a la cérémonie, il y a tout ça, il y a peut-être même Salat al-Janaza.
C'est le cas des compagnons, peut-être aussi, non?
Hein? Ça a été le cas, effectivement, avec des compagnons qui ont été, donc, effectivement, jetés à la mer. Et le prophète a tout à fait approuvé cette démarche-là, si il n'avait pas d'autre choix. Donc, il n'y a pas de problème que de faire cela. Mais, brûler, on ne le fait qu'en extrême nécessité. Donc, funérarium, non. Pas de crématorium, pas de tout ça. Où est-ce qu'on brûle les corps? Ça, c'est strictement interdit.
Si on connaît une personne...
Excusez-moi, qui est... Philippe, peut-être juste pour finaliser sur la question du cercueil. Donc, en France, le cercueil est obligatoire. On n'a pas le choix, on ne peut pas négocier.
Ouais, bien sûr.
Il est vrai qu'il y a des pays qui ont négocié cela avec leurs autorités. Je parle de la Belgique il y a 2 ans, la Grande-Bretagne, etc. Certains pays, certaines régions autorisent aujourd'hui, pour les juifs, pour les chrétiens, d'être inhumés sans cercueil, sous certaines règles, hein. Pas d'épidémie, pas de virus, pas de Covid, ceci, cela, etc. Néanmoins, en France, ça reste obligatoire.
Donc c'est une mise en bière.
Oui, mise en bière, ouais, c'est une mise en cercueil.
Ouais, c'est la mise en bière, oui. Ça veut dire qu'on va, sceller.
Oui.
On va ce qu'on appelle utiliser un tournevis. Ben,
on met une personne dans un cercueil, on le ferme.
On le ferme.
À l'époque, dans les Sun, ben, on appelait ça la mise en bière parce qu'on les mettait dans des barques et on les acheminait sur Paris lors de la peste. Et donc on appelle ça la mise en bière, donc c'est la mise en cercueil. Une fois qu'il est fermé, ben on le ferme et on va uniquement poser des scellés. Là, s'il quitte la ville, obligation de poser des scellés de part et d'autre. Mais quelqu'un, par exemple, qui est décédé sur Paris va être inhumé sur Paris, on n'a pas une obligation de mettre des scellés. Quelqu'un qui décède à Saint-Denis va être inhumé à Saint-Denis, il n'y a pas d'obligation de mettre des scellés.
Alors, bien sûr, pour expliquer aux auditeurs pourquoi on scelle, on doit sceller, parce qu'il est possible que si le cercueil n'est pas scellé, qu'il puisse, on utilise l'occasion pour faire du trafic.
Ça peut être ça. Peut-être que des gens pourraient le réouvrir. Donc, voilà. Il est scellé, c'est des scellés qui sont inviolables. Donc après, s'ils sont touchés, on voit que quelqu'un a touché.
Donc là,
notamment pour les rapatriements, c'est obligatoire. Et notamment pour les crémations, c'est obligatoire. Alors maintenant, la question, en France, nous n'avons pas le choix. La bonne nouvelle en France, qui est bien, c'est que là, depuis les législations de 2010, 2011, 2013, nous obligent à utiliser et à commercialiser des cercueils biodégradables. Donc qui se dégradent, qui se désagrègent très rapidement. Maintenant, la question se pose pour des rapatriements. Est-il préférable arriver au pays de destination?
S'il y a des inhumations après, enfin, comment on appelle ça, le fait de sortir un cercueil de terre?
Exhumation.
S'il y a des exhumations, il n'y a plus de cercueil alors?
Ben, généralement, franchement, au bout de 6 mois, lorsqu'on fait des exhumations, au bout de même pas 6 mois, 1 an, lorsque vous creusez déjà le cercueil,
il désagrégé.
Déjà pratiquement cassé dans tous les sens.
Je pensais que le cercueil, quand même, c'était con. Mais quand vous avez des caveaux,
ah non, caveaux, ils vont rester pratiquement, quand je dis pratiquement intacts, oui et non. Parce que dans les caveaux, il n'y a pas de terre, mais il y a des infiltrations d'eau. C'est pourquoi à chaque fois, il faut aller pomper. Parce que lorsqu'il pleut, bah, ça rentre dans les caveaux sont submergés.
On rappelle encore une fois que chez les musulmans, il est strictement interdit d'utiliser des caveaux pour enterrer ses défunts. On doit les enterrer dans des tombes en pleine terre, on doit les recouvrir avec de la terre et non pas des caveaux où est-ce qu'on peut rentrer et constater les corps qui sont
superposés
comme sur des étagères.
Et quand bien même le cercueil serait en état irréprochable, ne pourrait pas voyager, parce que si c'était un cercueil qui avait été destiné pour être inhumé en France, donc il n'est pas hermétique, parce que destiné pour la France. S'il doit voyager à l'étranger, il devra être mis dans ce qu'on appelle une enveloppe. C'est un cercueil de cercueil. C'est un cercueil qui est très grand, qui fait 2m20, 2m40 de long sur à peu près 1m de largeur. C'est un cercueil de cercueil, généralement à 90% destiné pour les exhumations. Alors maintenant, lorsque ces cercueils arrivent au pays de destination, donc à l'étranger, de toute façon, tous les cercueils qui partent à l'étranger, même en Allemagne, on a une obligation de les mettre dans un cercueil hermétique. Donc cela veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas un cercueil, mais 2 cercueils. Donc il y a un cercueil en bois qui est apparent, mais il y a un cercueil, ce qu'on appelle une caisse métallique. Donc c'est un cercueil en aluminium qui est à l'intérieur et qui est soudé. Quand je dis soudé, ce n'est pas soudé comme le ferait un soudeur. C'est uniquement soudé avec une colle forte pour éviter justement les émanations d'odeur et les écoulements. Donc ce cercueil-là, lorsqu'il arrive à l'étranger, lorsqu'il arrive donc au pays de destination, il est préférable de sortir le défunt du cercueil, parce que sinon il sera inhumé dans un cercueil hermétique, et un cercueil hermétique met des années et des années à se désagréger, sachant que une majorité de pays musulmans autorise le fait qu'on puisse ouvrir le cercueil à destination.
Beaucoup de questions qui se posent ce matin. On me demande de poser des questions sur les assurances obsèques. On y viendra dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, beaucoup de questions qui concernent les décès et la mise en terre ce matin avec le cheikh Youssef Hachmaoui et l'imam Abdelali Mamoun est avec nous. Je rappelle, cheikh Youssef, que vous êtes le fondateur de Janaza France. On parlait de l'exhumation tout à l'heure, imam Abdelali, c'est des questions qui reviennent souvent d'ailleurs dans l'islam au présent. Quand on veut, par exemple, procéder à l'exhumation d'une personne pour aller donc l'enterrer au bled, par exemple, est-ce qu'il faudrait peut-être au préalable avoir fait le choix d'un cercueil étanche?
Oui. Oui, si vous êtes sûr que... Alors, ça a été le cas pendant la période du Covid. Beaucoup de familles de différents pays d'origine ont opté pour ça. On leur a même recommandé ou conseillé le fait de les mettre dans un cercueil hermétique. Pour quelle raison? Si on en vient dans quelques mois à l'exhumation, généralement au bout de quelques mois, tout dépend bien sûr des villes, hein, tout dépend de l'état de la terre aussi des villes, et j'ai envie de dire, même les marbriers vous le diront, c'est même pas tout dépend des villes, tout dépend de l'emplacement où on est. La terre peut
exemple.
Être hyper... Exemple, on a fait deux exhumations récemment, une à Sarcelles, une à Versailles. À Versailles, le cercueil était neuf. Là-bas, la terre, elle est rouge, et on dirait même du sable. Oui, bel carré musulman à Versailles. Donc, on a exhumé le cercueil était intact. Les marbriers, lorsqu'ils sont sortis de terre, ils nous ont dit, le cercueil, il est neuf. Il était vraiment nickel, irréprochable. Vu qu'il était hermétique, celui-ci peut être juste un petit peu nettoyé, être mis dans une housse d'exhumation. Il part au bled, il n'y a aucun souci. Maintenant, si on déterre, parce que là, c'est un cercueil hermétique, mais si on creuse, on exhume un défunt, le cercueil est cassé, on a obligation de le mettre dans une enveloppe. S'il est fissuré, idem. Et si c'est un cercueil local, donc il n'y a pas de zinc à l'intérieur, on est aussi dans l'obligation de le mettre dans une enveloppe. Parce que tout corps qui part à l'étranger doit être enveloppé dans un cercueil qui contient un zinc à l'intérieur, ce qu'on appelle un cercueil hermétique. C'est un zinc à l'intérieur, donc c'est de l'aluminium. C'est une caisse métallique, aluminium,
mais
qu'on va fermer avec une colle forte.
Ça, c'est un coût.
Ça a un coût, oui. Ben, un cercueil, ça a un coût, oui. Si on peut donner un prix médian aujourd'hui, pour les gens qui font des devis dans des pompes funèbres aujourd'hui en France, parce que c'est un prix national, on va dire un cercueil pour un prix médian correct, on serait sur standard. Quand je dis standard, de type 1 ou 3, on est sur à peu près 750-800 €. Un prix correct. Au-delà d'une centaine d'euros, ça va. Mais au-delà 1 000 € et plus, qui parfois est commercialisé, ça commence à être très cher. Là, je parle pour un cercueil standard. Des fois, on peut avoir des gens qui sont très corpulents, très grands. Là, on doit aller sur des cercueils hors gabarit. Cela veut dire un cercueil standard. Généralement, c'est 1,85 m de long sur 70-65 de largeur. Là, si on part sur un cercueil de 2 m, 2 m 10 sur 75-80 de largeur, là, on est quand même dans un prix où il faut rajouter en moyenne 200-300 €.
Alors, cas, oui, je voulais ajouter un élément par rapport à cette question d'exhumation pour notamment transférer les corps vers les pays musulmans. Il faut savoir que seule l'école malikite autorise mutlaqan, c'est-à-dire sans même nécessité, le fait de transférer un corps. Les autres écoles, eh bien, il n'est pas question de toucher à un corps à partir du moment où il a été enterré dans un carré musulman ou dans un cimetière musulman, où il n'y a pas nécessité de transférer le corps, eh bien, il n'est pas autorisé. C'est notamment l'école hanafite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite qui sont clairs là-dessus, le fait qu'il n'est pas du tout autorisé de sortir, d'exhumer un corps de sa tombe s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de raison valable. Simplement parce que le monsieur avait fait un souhait d'être enterré au bled, mais les circonstances, par exemple Covid, qui a empêché le transfert des corps. Il a été enterré là, et bien il reste. Il est là où est-ce qu'il est. De toute façon, s'il est transféré au bled, son sort après la mort ne changera pas. S'il a été un bon musulman et qu'il a fait des bonnes actions et qu'il a amana wa amila salihan, il a fait des bonnes actions, eh bien, il aura la récompense qui lui est due. Et sa récompense ne sera pas plus grande si elle est là-bas. J'irais même que si lui reste ici parce que sa famille va pouvoir lui rendre visite, peut-être que les ziyarat, les fameuses visites que la famille vont faire pour profiter de l'occasion et le couvrir des invocations pour obtenir d'Allah la miséricorde, etc., eh bien, vont lui rendre service et vont lui apporter quelque chose dans sa tombe d'utile. Alors que s'il est envoyé là-bas et abandonné et oublié, eh bien, moi je suis assez, on va dire, moi en tout cas, c'est mon avis, mon point de vue, ça n'engage que moi, voilà, tout à fait. Je suis assez opposé au fait de transférer les corps. À partir du moment où il est enterré, on le laisse là où il est.
On va revenir à cette question des assurances. Vous savez qu'il y a des assurances obsèques qui existent, Imam Abdelali. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que c'est licite ou pas?
Des assurances?
Oui, c'est les assurances obsèques, on vous demande, ou des prévoyances obsèques.
Il y a plusieurs styles. Il y a une société qui va vous dire, monsieur, payez-nous tous les mois tant, et si vous mourrez, ou les personnes qui sont dans la liste concernées par ce contrat-là, vont avoir un capital, les vivants, pour pouvoir organiser les obsèques jusqu'à tant. Ça, ce contrat-là, il n'est pas licite.
Bon.
Par contre, ce qui va être autorisé, c'est quoi? C'est de créer un sorte de capital ou tout simplement une caisse, hein, une collectivité, un groupe, une association par exemple, ou carrément une assurance mutualiste, hein, qui va donc collecter des fonds de ses adhérents pour dire voilà, si l'un d'entre vous meurt, on va piocher dans cette caisse là pour enterrer et utiliser, sur présentation de facture, on va assumer l'intégralité des frais, parce qu'il y a une logique de solidarité collective, bien sûr, sans abuser, et au niveau des factures, il faut que ça soit quelque chose de raisonnable. Mais ce qui va être proscrit, c'est quoi? C'est qu'un gars vient et dit, moi, je suis une société, vous vous occupez pas de mon capital, de mes gains, etc. Vous me versez tant. Et moi, si quelqu'un d'entre vous meurt, j'assume l'intégralité des obsèques et des frais d'inhumation, etc. Ils émettent quand même un plafond, hein, faut pas que ça soit abusif. Ça, ce genre de contrat-là, ça n'est pas licite. Parce que là, on est dans l'assurance purement et simplement. Et l'assurance, déjà, le principe de l'assurance n'est pas licite. Sauf si, bien entendu, il y a nécessité. Comme par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas louer.
Si j'ai bien compris, la mutualisation, comme ça existe, hein, il y a des villages notamment, des associations qui le font. Ça, c'est autorisé. L'assurance obsèque, c'est pas.
Si c'est une société, non. Mais si c'est une mutuelle d'assurance, c'est-à-dire il y a une caisse collective où les gens adhèrent à une mutuelle, eh bien oui, là c'est autorisé, il y a pas de problème.
C'est exactement ça.
C'est le principe
c'est le principe qu'on a mis en place là depuis quelques mois.
Quand vous dites vous pensez à qui?
Ben nous, Janaza France, en D'accord. collaboration avec certains, dont Sakina, Funérailles et autres, parce qu'on peinait, même les banques de certains pays musulmans, qui sont uniquement des banques, hein, en sachant que ces pays-là, comme les pays européens, ce qu'ils nous vendent à 100%, ce sont des assurances vie, mais qui sont maquillées, contrats de prévoyance, contrats obsèques, contrats, etc. Sachant que les banques n'ont pas le droit de vendre des contrats obsèques, c'est pourquoi ils ont modifié le terme en appelant ça des conventions obsèques, parce que pour être...
Il faut être
opérateur funéraire, faut être affilié à l'ORIAS, etc. Et donc, pour ça, et à partir de là, en tant qu'opérateur funéraire, affilié à l'ORIAS avec un numéro ORIAS, vous pouvez commercialiser des contrats obsèques. Notamment, donc, alhamdoulilah, il y a eu certaines initiatives ici et là. La meilleure existante aujourd'hui sur le marché, avec lesquelles d'ailleurs on travaille depuis quelques années, c'est une caisse de mutuelle qui travaille avec l'un des plus grands mutualistes français dans le sud de la France. Et donc, c'est une caisse qui est mise à part pour les cotisants. Donc, c'est une caisse de mutuelle, comme jadis l'ont fait des communautés qui étaient exemplaires là-dedans. C'est eux qui l'ont fait, sachant que c'est les Chibani, hein, c'est les anciens tirailleurs. Nous avions les Sénégalais, les Ivoiriens, les Kabyles. l'une des communautés les plus organisées en France, qui font un travail magistral, c'est eux qui ont créé ces premières caisses de village. Donc ce n'est pas par ethnie, ce n'est pas par famille. Mmh. Alors il y a des caisses de famille, hein, mais là par exemple, ceux avec qui nous travaillons, nous, sont uniquement des caisses de village, voilà, qui ont un certain nombre de cotisants. Ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être 500, qui viennent par exemple de Terre Village, je sais pas, Arzazga par exemple. Et ben eux ont une caisse où ils vont cotiser par exemple tous les ans 50 euros. Et s'il y a un décès, c'est cette caisse-là qui vous paye. Idem pour les Sénégalais, les Ivoiriens et autres avec qui nous travaillons, les Maliens aussi. Ils ont ces caisses donc de tontines. Ils cotisent tous les ans 20, 30 euros. Et lorsqu'il y a un décès, c'est ces associations qui vous contactent. Vous prenez en charge leurs défunts pour un rapatriement Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Comores, etc. Les Comoriens aussi sont très, très organisés là-dedans et très bien organisés. Et comme ça, là, c'est vraiment la caisse du village qui vous rémunère.
Alors, moi, j'aimerais savoir si je suis... là, qu'est-ce que je dois faire ? Moi, je suis père d'une famille. Bon, qu'est-ce que vous conseillez à ces familles musulmanes, à ces enfants qui ont des parents, hein, qui ont déjà un certain âge ? Qu'est-ce que vous les conseillez de faire par rapport... Ils n'ont encore pris aucune initiative. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil ?
Clairement, c'est de nous contacter et prendre un contrat obsèque. C'est un contrat obsèque de mutuelle. Vous êtes affilié à une mutuelle, c'est écrit dessus. Bon. Là, on va pas citer le nom, mais de toute façon,
donc vous ça, aurez c'est halal,
oui,
sûr, on l'a dit.
Vous aurez une carte d'adhérent, c'est avec Sakina Funérailles, c'est avec Mutac, c'est une mutuelle qui est transcrite, et c'est une caisse qu'on appelle une caisse d'adhésion et une caisse de cohésion sociale.
Et donc, les personnes qui décèdent sont prises en charge?
Tout à fait.
Tout de suite,
vous
immédiatement.
Payez, si vous êtes seul en bas âge, c'est pas cher, c'est à peu près une vingtaine, une trentaine d'euros. Après, si vous êtes parent.
Parent,
ouais. Ouais. Maintenant, si vous êtes un couple avec des enfants, ben, plus vous êtes nombreux, couple, enfants, vous êtes à peu près une cinquantaine d'euros. Après, plus vous montez et plus vous montez en âge, plus ça devient, c'est plus 70,
c'est
80 euros.
C'est pas cher, par an, hein. C'est rien,
par
ça.
An, tout à fait, oui.
C'est rien, par an, mais ça tout vaut le coup. Moi, je pense que ça vaut le coup. Parce que des obsèques, ça peut coûter cher, quand même.
Ah,
hein.
Tout à fait.
Donc là,
on est dans une moyenne de 3500 à 4000 euros.
Ça prend quoi en charge? Parce que 30 euros par an, alors effectivement, ça paraît pas beaucoup. Mais ça prend quoi
ça
en
prend
charge?
Ça prend en charge les obsèques jusqu'à un capital plafonné de 4. Alors, vous avez des plafonds. Vous avez 2500 euros, 3500, 5000. Et jusqu'à 7000 pour les pays comme l'Inde, les Comores, ça coûte très cher.
Et justement, ces personnes-là, donc, elles vont vous contacter, mais vous allez les envoyer où?
Elles souscrivent le contrat chez nous et elles reçoivent ensuite un contrat de la part du mutualiste.
Chez vous, elles viennent à vous, dans vos bureaux?
Nous envoient un mail, on fait la souscription en ligne ou bien elles se déplacent dans nos locaux et puis on fait un contrat.
D'accord. Et c'est quoi le numéro de téléphone?
01
Janaza France.
Janaza France tout court.
Voilà.
Janaza France
vas-y,
tout court. 01 34 45 48 77.
Ouais, c'est parfait.
C'est que l'imam Abdelali Mamoun a une grande carrière pour le téléachat.
Ah, tout à fait.
Moi,
voilà,
je pense que.
Mais les gens, ils veulent savoir.
Non, mais Pierre d'Hostel a du souci à se faire.
C'est un service public.
Alors il faut redonner le numéro de téléphone.
Alors, vas-y, redonne-le, voilà. Monsieur Youssef. Travaille un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait, là, cher Youssef?
Hein? Bah, écoutez, il nous envoie 01 34 45 68 77.
Et aux heures normales, c'est de
9h-19h.
Bien. De toute façon, il y a encore énormément de questions et vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Donc, on n'a pas pu prendre toutes les questions. On reviendra, en tout cas, sur le sujet. Cher Youssef, on vous retrouve bientôt sur Beurre FM. Et avec Imam plaisir. Abdelali, on vous retrouve à la rentrée, Inch'Allah, puisque vous partez dans votre maison des Bahamas. Comme chacun le sait, tout l'été, vous êtes sur Harbour Island.
Voilà.
Et un taré qui réalise l'émission.
Avec une belle piscine, 3 hectares
aussi.
Oui.
Avec une belle piscine
familiale. Tarek, t'étais au courant pour la maison de l'imam aux Bahamas. T'avais vu les photos?
Je sais, j'étais invité. Il y avait même DJ Khaled et Tupac.
DJ Khaled.
Il y avait les Boys to Men là-bas.
DJ Kim.
Il y avait Nicki Minaj et Sœur Kardashian.
Non, moi, c'est que Kim.
Il y avait les Sœurs Kardashian et Nicki Minaj.
Ah, celle-là, par contre, ça va être compliqué.
Bon, on en reparlera plus tard des soirées de l'imam.
Allez, passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.